Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Arabesque.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Alors, j'étais sur le point de prendre la photo suivante lorsque cela se produisit, ce fut instantané, un éclair temporel. Je ne puis voir le visage. Visage de la personne qui marcha vers Waldo, lui mit le revolver sous le ventre, ça passe bien, hein, sous le ventre, et pressa la détente. Voilà, votre prochain roman policier, coup de sang à Manhattan, est bien en route. Maintenant, sans doute que lui aussi sera un best-seller. Vous êtes Jessica Fletcher, une veuve de 58 ans qui vit dans le Maine, à Cabot Cove. Vous avez eu un mariage heureux avec Frank Fletcher. Et vous étiez institutrice 19 années durant, ce qui explique en partie votre attitude quelquefois un peu, comment dire, professorale justement, un petit peu autoritaire un peu. Hein. Vous enseignez l'anglais à la Cabot Cove High School. Et vous avez démarré une nouvelle carrière en tant que romancière de romans policiers. Un peu comme ça, pour voir, pour le fun quoi. Votre premier livre avait pour titre « The Corpse Dance at Midnight ». Et votre neveu, Grady, a envoyé le manuscrit, sans vous le dire, à un éditeur, Preston Giles, du Covington House Press. Et en fait, on s'est rendu compte que votre petite distraction, votre cri d'amour au roman policier, est devenu un best-seller, le premier d'une longue lignée. Vous allez donc quitter régulièrement votre havre de paix, où vous pouvez écrire tranquillement, pour de grandes villes, comme New York, où vous allez faire des conférences, des séances de dédicaces, ou bien à Los Angeles, où vous allez visiter le tournage d'adaptation cinématographique d'un de vos romans. Et chemin faisant, au milieu de tout cela, invariablement, vous allez être confronté à un crime. Alors évidemment, cela vous intrigue, exactement comme vous étiez intrigué quand vous lisiez des romans policiers. Et depuis que vous en écrivez, vous avez décuplé vos dons de déduction et d'observatrice. Ben c'est forcé, parce que vous devez bâtir des énigmes policières solides. Alors, vous voilà devenu détective amateur. Quand vous êtes impliqué ou confronté à un crime, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous êtes curieuse, vous mêlez de tout, vous fourrez votre nez absolument partout. Vous donnez des conseils à tout le monde sur les indices à suivre. Bref, c'est franchement plus fort que vous. Vous avez été professeur, ça ne s'oublie pas, vous dirigez littéralement les forces de police. Et ça, ben vous l'avez fait non pas une, non pas deux, mais 261 fois, chaque semaine. C'est incroyable, non? Que vous tombiez en plein dans un crime, un meurtre, chaque semaine. Vous êtes la personne la plus malchanceuse au monde, ou chanceuse, c'est selon, parce que toutes ces histoires vous donnent des idées pour vos prochains livres. Et cela a été montré durant 264 épisodes d'une série télé hebdomadaire. Ouais, il y en a trois de plus parce que certaines de vos enquêtes étaient si complexes qu'elles se sont étalées sur deux épisodes. Et puis, vous avez même repris du service de façon un peu plus occasionnelle, quatre fois pour quatre enquêtes unitaires, quatre téléfilms en clair, en 1997, en 2000, 2001 et 2003. Quelle santé! Je disais que vous dirigiez un peu les forces de police, sans trop le dire, sans trop vous faire remarquer, mais fermement aussi. Et justement, vous en avez rencontré des policiers, des shérifs et des autres détectives. Il y a eu le shérif Amos Topper, qui était interprété par Tom Bosley, le papa Cunningham de la sitcom Happy Days, qui devint par la suite le père Dolling dans une autre série policière, comparable à la vôtre d'ailleurs. Une série qui a été créée par Dean Hargrove, où l'on retrouve Brian Clemens, le créateur de Chapeau et bottes de cuir, au scénario. Il y a eu aussi Jerry Orbach dans le rôle du détective Harry Maguire, tellement charismatique qu'il fut plus tard le héros de sa propre série dérivée, un spin-off de courte durée qui s'appelait The Law on Harry Maguire ou La loi du privé. C'était en 1987. Jerry Orbach, lui, a continué d'être enquêteur jusqu'à sa mort en 2004. Mais ce coup-ci, c'était en tant que Lenny Briscoe pour la série Law and Order, New York District. Il y a eu le shérif Metzger de Cabot Cove, à partir de votre saison 5, qui était incarné par Ron Mazzack. Il y a eu le maire de Cabot Cove, Sam Booth, qui était aussi un personnage régulier, interprété par Richard Paul. Et puis, vous avez croisé un voleur reconverti, Denis Stanton, interprété par Keith Mitchell. Lui, c'était un acteur qui remporta d'ailleurs un Emmy Award pour son interprétation de Henri VIII dans la mini-série « Les six femmes d'Henri VIII ». Lors de la 7e saison, il eut même droit à mener ses propres enquêtes durant 5 épisodes, en vous volant ainsi temporairement la vedette. Mais bon, c'était avec votre bénédiction quand même. Et puis, il y a eu le docteur Hazlitt, qui joue souvent aux échecs avec vous, interprété par William Wyndham. Et puis, surtout, vous avez un nombre impressionnant de nièces, cousins, cousines et neveux, comme Grady, justement, qui, eux, reviennent dans votre vie et sont immanquablement impliqués dans un crime. Il y a eu Carole, Calum, Tracy, George, Pamela, vos tantes Mildred et Agnès, et même votre cousine jumelle, Emma, qui vit en Angleterre et qui est chanteuse. Mais le très grand plaisir de toutes vos enquêtes aussi, c'est que cela vous donne l'occasion de rencontrer des acteurs et des actrices absolument formidables et mythiques. Un peu comme la croisière s'amuse que l'on aurait croisée avec Miss Marple. Il y a John Astin, par exemple, oui, le John Astin de la famille Adams, Ned Beatty, Brian Keith, du Juger le Pilote, Dean Jones. Ah oui, ça vous rappelle quelque chose, hein, votre enfance, les films Disney, Un amour de coccinelle, Le fantôme de Barbe Noire, etc. Ben, Dean Jones, donc, Vera Miles, Peter Graves et Greg Morris, tous les deux de Mission Impossible, réunis dans le même épisode. Et puis Yvonne De Carlo, Leslie Nielsen de Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion, Linda Blair, la petite fille de l'exorciste, Sonny Bono du duo Sonny and Cher, et puis des tonnes d'acteurs et d'actrices. George Chakiris, Kim Hunter, Mickey Rooney, avec qui vous aviez fait des films par le passé, George Clooney, James Coburn, Martin Landau, William Conrad, Anne Francis, Sid Charisse, Patrick McNee, Robert Stack, Roddy McDowell, David McCallum, Patrick McGowan, oui, le prisonnier, numéro 6, Janet Leigh, George Takei, Robert Vaughn, bon, là, je vais arrêter parce que sinon, on est là encore demain, hein, d'innombrables guest stars. C'était vraiment la marque de fabrique de votre série. Et vous avez même mené une enquête avec Tom Selleck, avec Magnum en personne. Vous avez été chez lui à Hawaï dans le but de le disculper d'un crime. Ça aide que la série soit aussi en même temps diffusée sur la même chaîne que la vôtre, la CBS. D'ailleurs, dans ce même le double épisode crossover, si vous regardez bien, il y a Jared Martin, un acteur que les ultra-geeks connaissent pour Dallas dans le rôle de Dusty Farlow, mais aussi pour une série de science-fiction un peu ratée des années 70, Fantastic Voyage, Le Voyage Extraordinaire, ainsi que pour la version télé de La Guerre des Mondes dans les années 90. Vous avez mené des enquêtes un peu partout, à Paris, à Hong Kong, dans un avion en vol, dans un studio d'enregistrement, dans un cirque, dans un salon de haute couture, et même via un authentique film de 1949, Strange Bargain, qui sert à montrer des événements d'une enquête qui s'est déroulée des années plus tôt et qui a mené à l'emprisonnement d'un innocent. D'ailleurs, pour arriver à ce résultat, le producteur Peter S. Fisher a visionné des centaines de films noirs d'époque avec deux contraintes, qu'une suite puisse être envisagée, et que les interprètes du film d'époque seraient toujours vivants pour continuer à jouer leur propre rôle des années plus tard. En gros, c'était cold case avant l'heure, quoi. Et dans un autre épisode, très émouvant, vous découvrez que pendant la guerre de Corée, où il était en poste, Frank, votre regretté mari, aurait eu un fils caché. Comme vous constatez, Arabesque, c'est beaucoup moins monolithique que vous pensez. Cependant, les enquêtes, elles, ont une structure toujours immuable, mais assez complexe et demande de l'attention pour repérer les indices qui sont dévoilés à la fin. On est vraiment dans le whodunit traditionnel. Un crime, des suspects qui ont chacun des mobiles. Vers le milieu de l'enquête, la police croit tenir le coupable, mais évidemment elle se trompe. Cela ravive votre enquête, vous n'avez de cesse que de faire libérer celui qui est retenu à tort. On attend ensuite avec impatience le final, où vous révélez l'identité du meurtrier et où l'on voit par de courts flashbacks comment il ou elle a procédé avec les fameux indices que vous avez sans doute manqué, vous, spectateurs. Mais plongeons un peu plus concrètement dans ces 12 saisons que vous avez passées avec nous. 12 saisons de 22 épisodes en moyenne, ayant pour vedette une actrice de plus de 60 ans. C'est quand même impressionnant. Hein. À l'origine de votre existence, il y a un duo d'auteurs très réputés. Richard Levinson et William Link, auteurs de nouvelles policières, puis scénaristes télé durant les années 60. Ils sont les créateurs de Manix, en association avec Bruce Jenner, le créateur de Mission Impossible, et surtout de l'inspecteur Columbo. Je vous ai déjà parlé d'eux dans le Previously consacré à Columbo, à quel point cette série a eu un succès retentissant et international. Il était évident que le duo avait maintenant la porte ouverte pour lancer de nouvelles séries. Mais peut-être allait-il devenir prisonnier du succès de Columbo. Parce que on finissait par leur demander de recréer cette formule gagnante encore et encore. Déjà, en 1975, il développe une adaptation des enquêtes d'Hillary Queen, The Hillary Queen Mystery, à plume et à sang en français. Cela permet de s'associer à un autre auteur féru de romans policiers, Peter S. Fisher. Mais déjà, eux, ce qui les passionne et qu'ils ont très envie de lancer, c'est une série avec un magicien enquêteur. Ils sont absolument passionnés par le sujet, ils aimeraient beaucoup pouvoir bâtir une série là-dessus, mais le sujet a déjà connu un échec historique. C'est en 1974, avec une série qui avait pour titre justement « Le magicien ». Qui comptait pourtant Bill Bixby comme vedette et qui fut même reformaté en cours de diffusion tant ça ne marchait pas et qui ne dépassa pas une seule saison. Donc, on a demandé au duo de scénaristes associé à Peter S. Fisher d'oublier cette idée de revenir aux enquêtes purement policières. Au même moment, un téléfilm d'Agatha Christie, Miss Marple, avec Ellen Hayes, avait cartonné sur CBS. Donc l'idée est venue de faire une série qui ne serait pas aussi typée que Miss Marple, mais serait une création originale. Cependant, il fallait garder tous les aspects du personnage. Une Agatha Christie américaine qui mènerait elle-même des enquêtes criminelles, comme disaient les auteurs. Votre personnage, Jessica Béatrice Fletcher, ouais, deuxième prénom Béatrice, est donc créé. Le projet d'une série avec une femme d'âge mûr qui est enquêtrice, même si ça paraît justement un petit peu hors norme, est donc développé et proposé à Jean Stapleton. Alors, moi je vous dis Jean Stapleton, cela vous dit absolument rien. Ça vous laisse franchement de marbre. Mais dites Jean Stapleton à un Américain qui a la cinquantaine. Vous le verrez se prosterner avec des larmes dans les yeux. Those were the days, and you knew where you were then. Jean Stapleton a été en effet Edith Bunker, la femme de Archie Bunker, dans une sitcom qui a révolutionné le monde de la sitcom en la faisant passer du stade amusant au stade reflet de la société. C'était All in the Family. Stapleton est donc véritablement une légende vivante. La chaîne CBS a été celle qui a diffusé All in the Family. Elle veut absolument garder sa vedette. C'est donc du tout cuit. Et puis non. Jean Stapleton lit le script et refuse. Ben, ça ne lui plaît pas. À la lecture du scénario, c'est pas son truc. Il vous faut donc trouver une nouvelle interprète, une nouvelle dame, qui sera la pétillante et incisive Jessica Fletcher. Donc vous, quoi. Angela Lansbury est une grande figure du cinéma. Actrice d'origine britannique, elle est partie vivre et travailler aux États-Unis. On l'a vu dans des films marquants, comme Antise, comme Le portrait de Dorian Gray, et elle était même la mère d'Elvis Presley dans un des films d'Elvis Presley, Blue Hawaii, sous le ciel bleu d'Hawaï. Elle a eu un rôle très important dans Un crime dans la tête, et surtout, elle est devenue populaire grâce à une super production Disney, qui était un peu fait pour faire suite à Mary Poppins. Le film s'appelait L'apprentie sorcière, Belknaps and Broomsticks. C'était une féerie musicale, parce que la dame, en plus, a fait beaucoup de comédies musicales à Broadway, et elle a même remporté 4 Tony Awards. Mais ce qui est encore bien plus pertinent pour le projet de série, c'est qu'elle-même a tenu le rôle de Miss Marple au cinéma. Eh oui, c'est dans un film, Le miroir se brisa, en 1980. Plus d'hésitation à voir, Jessica, vous, bah c'est elle. On lui envoie donc le script du pilote, ça tombe bien, elle a plutôt envie de s'impliquer dans une série télé régulière. Et on espère donc une réaction positive. Dans une interview, Angela Lansbury raconte que, en lisant le script, je me suis dit que je pouvais facilement m'adapter à Jessica Fletcher. Elle est courageuse, pleine d'enthousiasme pour les gens et la vie, et c'est tout à fait mon attitude. C'est une femme active, qui fait de la bicyclette, du jogging. Par contre, elle ne conduit pas, ce qui est une bonne chose, parce que comme ça, on évite les sempiternelles poursuites en voiture. Ce n'est pas une excentrique, c'est simplement une personne honnête, directe, très éthique, avec l'esprit ouvert, et c'est très important, elle est américaine. Eh ouais, tout cela différencie radicalement le personnage de Jessica Fletcher du personnage extrêmement irascible de Miss Marple. Et cela, l'actrice l'apprécie énormément. Angela Lansbury va s'impliquer directement dans les scénarios, dans le casting, dans vos tenues, donc ses tenues à elle, dans votre look, donc son look à elle. L'idée était aussi que vous, Jessica Fletcher, vous soyez très semblable à elle. Il y a donc petit à petit une symbiose qui se crée entre le rôle et l'actrice. Elle doit être toujours très dynamique, en activité et surtout pas à la retraite. Par contre, la comédienne, elle a un petit peu ses exigences. Elle stipule qu'elle ne veut pas voir de sang dans la série, pas de violence gratuite et qu'elle ne veut surtout pas qu'on lui adjoigne de partenaire masculin. De plus, Angela Lansbury a mis un peu de temps à s'habituer au rythme infernal de la production d'une série hebdomadaire. « C'est une vie en autarcie, raconte-t-elle. On se lève à 5h45 du matin, on arrête à 18h, on apprend son texte pour le lendemain, on ne pense qu'à une chose, la série. » Votre série est donc lancée à la rentrée, en septembre 1984, le dimanche soir à 20h. Ça a son importance. Et là, c'est un carton. Mais un carton ! Un succès absolument énorme, qui atteint les 25% de parts de marché et qui va durer en plus. La série sera, durant 9 années consécutives, à la tête des audiences pour les séries dramatiques d'une heure. À la tête, number one ! Elle emportera au fil des années sur son passage toutes les autres séries qui oseront la concurrencer le dimanche soir à 20h sur les autres chaînes. MacGyver, K2000, le Amazing Stories de Spielberg, le Sequest aussi de Spielberg, Lewis et Clark, les aventures de Superman, les Simpsons. Bref, ils ne feront pas le poids face à Jessica Fletcher qui règne des audiences. Un raz-de-marée. Enfin, les deux créateurs, Levinson et Link, peuvent faire passer sur la lancée du succès d'Arabesque leur projet initial avec un magicien qui résout les enquêtes. Oui, vous vous souvenez, ils avaient ça en tête quand même. Et ils créent donc, en 1986, Blake's Magic, avec Al Linden et Harry Morgan. Une série qui est exactement ça. Un magicien qui résout des enquêtes. Malheureusement, la série, qui est plutôt sympathique, ne durera qu'une demi-saison, 13 petits épisodes avant d'être annulée. Bon, excusez-moi Jessica, pardon pour cette digression, je parle d'une autre série, revenons à la vôtre. Murder, She Wrote, à savoir Arabesque donc, a un coût. Ça coûte de l'argent de faire une série. $1,300,000 par épisode, ce qui est grosso modo un budget moyen pour une série contemporaine. Chacun des épisodes est tourné en 7 à 8 jours de tournage. Ouais, parce que succès aidant, vous avez gagné de quoi tourner un 8e jour à partir de la saison 2. Et ça se décompose ainsi. Il y a 4 jours en studio, au studio Universal, ou dans le backlot des studios, à savoir bon, juste en extérieur, dans les décors reconstitués, et 3 jours en extérieur. Et pour cela, vous vous rendez chaque semaine à Cabot Cove, mais la vraie Cabot Cove. Donc en fait, bah, c'est pas Cabot Cove. Ça s'appelle Mendocino. C'est une petite ville côtière de la Californie du Nord. Alors, si vous souhaitez vous recueillir et rendre hommage à la série devant la maison de Jessica Fletcher, vous pouvez vous rendre là-bas, mais ne cherchez pas le 698 Candlewood Lane. En fait, et ça je vous donne l'info, c'est au 45110 Little Lake Street à Mendocino. Donc en fait, il s'agit d'un hôtel, un bed and breakfast, le Blair House Inn. C'est lui qui était censé représenter la maison de Jessica Fletcher. Donc, grosso modo, ça veut dire que maintenant, des gens peuvent dormir chez vous. Sympa. Le succès se poursuit, on arrive à votre 5e saison, en mai 1989. Il est temps de renouveler votre contrat. Eh oui, Angela Lansbury va empocher dorénavant $175,000 par semaine et en plus a un contrat de développement de futures séries pour votre maison de production. Et c'est grâce à cet accord que naîtra une autre série qui s'appelle Les Anges du Bonheur. Après 6 années de succès, vous fatiguez un petit peu. Votre interprète, Angela Lansbury, fatigue un peu. Ah oui, le rythme de production est quand même sans relâche. Hein. Je vous rappelle, c'est 22 épisodes par an. Ça y va, hein. Et vous êtes la vedette dans tous les épisodes. Bon, justement, on va tenter de produire des épisodes sans vous. Avec toujours une enquête policière, mais sans votre présence effective. Vous apparaîtrez dans 13 épisodes sur les 22 de la saison. Vous contenterez de ne faire que les présentations pour les autres. En 1991, En saison 8, ça bouge. Pour renouveler un peu le genre, et puis pour capter aussi un public un petit peu plus jeune, vous allez déménager. Vous allez faire des cours de criminologie à Manhattan. Vous habitez donc provisoirement là-bas. Vous ne revenez à Cabot Cove que le week-end. Ça tombe bien, c'est au moment des épisodes. Les audiences baissent un peu, vous allez donc diminuer considérablement le nombre de guest stars de prestige. Et, changement majeur, vous troquez votre machine à écrire pour, attention, un ordinateur. Un traitement de texte avec une imprimante. Le pari du renouvellement est gagné, les audiences remontent. Angela Lansbury empoche donc maintenant un salaire de 400 000 dollars par épisode. Elle est devenue productrice exécutive de la série. Son fils, Anthony, devient réalisateur de nombreux épisodes. Et Bruce Lansbury, le fameux producteur de nombreuses séries devenues des classiques, comme Mission Impossible par exemple, devient producteur de la série. Et oui, vous aviez remarqué, Angela Lansbury, Bruce Lansbury. Ben oui, c'est son frère. Et puis arrive la 12e saison, en 1995, et un changement dans votre vie. Non, non, vous ne changez pas à nouveau d'ordinateur, ça va, une fois, ça va. Non, non, vous ne déménagez pas encore. Non, non, vous êtes toujours interprété par Angela Lansbury. Mais vos enquêtes changent de jour. Je vous avais dit que le coup du dimanche soir, c'était important. Maintenant, avec le replay, le délinéarisé, ça n'a plus vraiment grande signification. Mais à l'époque, le dimanche soir, c'était aussi sacro-saint pour le public de Jessica Fletcher. Autant que le dimanche après-midi ne l'était pour les Français avec Starsky et Hutch. C'était vraiment un rendez-vous, une fidélité. La chaîne CBS décide de changer le jour de diffusion de la série et de la programmer le jeudi soir, à 20h. Bon, bah et alors, me diriez-vous? Bah le jeudi soir à 20h, c'est juste en face de Friends. Alors, ce n'est pas du tout le même public, ni le même âge, qui regarde majoritairement l'une ou l'autre de ces séries. On peut donc se dire qu'il s'agit là d'une contre-programmation intelligente face aux mastodontes des six jeunes gens new-yorkais. Sauf que non. Sauf que non, le public abandonne la série en masse. Soit il ne la trouve plus, soit il regarde Friends. Angela Lansbury a beau protester de cet état de fait, l'ancien succès plonge dans les audiences. Inévitablement, ben, la série est annulée. La saison 12, dont le coût était passé à 1 800 000 dollars l'épisode, sera la dernière. Certains esprits méchants chuchotent même que CBS a fait un peu exprès pour annuler la série. Mais quand vous êtes un petit peu rancunière, juste avant que votre série s'arrête, vous allez faire un épisode qui s'appelle Murder Among Friends. Vous allez résoudre un crime sur le plateau d'une sitcom qui s'appelle Buds. Une comédie avec 6 personnages qui ont une vingtaine d'années et qui se retrouvent à discuter dans le café du coin. Avec une musique pour leur comédie qui ressemble quand même à la musique de Friends et tout. Donc voilà, c'est un super gros clin d'œil. Le tout dernier épisode se termine sur vous, écrivant votre prochain roman. On vous entend dire, en voix off, « Chers amis, ce soir, vous venez de voir notre tout dernier épisode. Notre tout dernier épisode hebdomadaire. Ma gratitude et mes remerciements à vous tous. » Notre famille de spectateurs, 12 années durant. En 2013, un projet de reboot de la série avec Octavia Spencer dans votre rôle fit long feu et ne se concrétisa même pas. Bon, reprenons. Quelqu'un avait tué Waldo Morse. Là, sur la 5e avenue, à New York. À 2h de l'après-midi, en pleine saison des fêtes. Ah, c'est bien ça. J'essayais de me frayer un chemin parmi la foule qui s'arrêtait pour se repaître de la vue, ah oui, c'est bien, de la vue du Père Noël abattu. Voilà, Coup de sang à Manhattan va bientôt être terminé. Les lecteurs pourront se le procurer un peu partout. Vérifiez, vous verrez, c'est simple, il y a votre nom dessus. Jessica Fletcher. La semaine prochaine, changement radical, un autre destin de femme, mais qui n'a rien à voir. Une dystopie, The Handmaid's Tale. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.